Bienvenue dans le premier module du cours grâce auquel vous allez apprendre à développer un site web en PHP et à le déployer dans Azure, l'environnement cloud de Microsoft. Donc ce premier module va nous permettre de préparer notre environnement de développement, qu'on soit sous Linux ou sous Mac. Si vous avez l'habitude de travailler au sein d'un environnement Windows, alors vous pourrez directement passer au module suivant, qui concerne donc la préparation de l'environnement de développement, mais au sein d'un environnement de travail Windows. Alors, quel est le sommaire de ce premier module? Il est décomposé en quatre parties. La première concerne l'installation des services. La seconde va nous permettre de voir comment installer un éditeur de code. Je vous en citerai un en exemple. Ensuite, nous aurons une troisième partie sur l'installation de ce qu'on appelle un IDE. Et enfin, pour tester que notre environnement de développement fonctionne bien, nous essaierons d'afficher un classique Hello World. Voilà, donc je vous propose de commencer immédiatement avec la toute première partie, l'installation des services. Alors, parmi les services à installer, nous avons d'abord un serveur web. Là, nous utiliserons Apache 2. Ensuite, nous aurons à installer également le moteur qui va être capable d'interpréter les pages PHP. Donc c'est PHP lui-même. Et tout cela, nous allons le faire pour nous rapprocher au maximum des conditions et de l'environnement Linux ou Mac. Nous allons utiliser un client SSH qui s'appelle PuTTY. En effet, vous allez le découvrir immédiatement. L'environnement de travail dans lequel je suis actuellement, c'est un environnement Windows, et ceci pour les besoins de la démonstration, puisque toute la suite de nos modules se fera en environnement Windows. Mais pour, comme je vous le disais, nous rapprocher au maximum des conditions de travail de l'environnement Linux ou Mac, nous allons donc utiliser un client SSH pour nous connecter à un serveur Linux, et nous retrouver à peu près dans les conditions de l'utilisation d'un terminal sous Mac ou sous Linux. Alors le client SSH que nous allons utiliser s'appelle PuTTY, et on peut le récupérer simplement. Alors vous avez vu, il y a l'URL dans la diapositive précédente sur laquelle on était, mais là, tout simplement, en faisant un putty.org dans votre navigateur préféré, vous avez accès à une page qui va vous permettre de télécharger, vous le voyez ici en partie haute, de télécharger PuTTY. Et vous avez ici un lien qui va vous permettre d'accéder aux pages de téléchargement de PuTTY. Voilà, donc on clique dessus et on a plusieurs versions qui sont proposées ici dans cette partie. Celle qu'on va prendre, c'est le client qu'on va choisir, c'est le premier, hein, PuTTY, le PuTTY tout simple. Voilà, donc on clique sur cette première URL ici, de façon à récupérer ce client SSH. Donc on l'enregistre pour faire simple sur notre bureau ici. Voilà, c'est fait. Et voilà, vous avez directement un exécutable que vous pouvez lancer directement. Cet exécutable va donc vous donner la possibilité d'accéder en SSH à un serveur Linux. Alors, je l'ai déjà sur ma machine, donc j'ai supprimé ce que j'ai là. Et on va le lancer à partir de notre barre des tâches ici. Et j'ai déjà enregistré un accès à mon serveur en SSH ici. Voilà. Donc là, c'est un nom d'utilisateur qui est attendu. Je le saisis. Il me demande le mot de passe. Je le saisis également. Voilà. Et j'ai donc accès à mon serveur. Donc là, on se retrouve vraiment dans les conditions de l'usage d'un terminal sous Mac ou sous Linux. Donc essayez simplement de faire abstraction du reste de l'environnement et concentrons-nous simplement sur ce terminal et sur les lignes de commande que nous allons y saisir maintenant. Donc la première chose à faire, c'est d'installer notre serveur web. Donc là ici, on va utiliser un Apache 2. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de l'environnement Mac, sous Mac OS X, eh bien, le serveur Apache 2 tourne déjà, il est déjà installé et fonctionnel. Pour le vérifier, il suffit de saisir cette commande-là, http-v. Donc, je vais juste zoomer pour que On voit bien. Voilà, c'est cette commande-là qu'il faudra lancer. Et ça va vous montrer qu'en effet, votre serveur web Apache tourne déjà sur votre machine macOS 10. Je ne vais pas le faire là, puisque là, je suis au sein d'un serveur Linux qui n'autorise pas cette commande-là. Voilà, et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est installer au sein de notre environnement Linux, cette fois, notre Apache 2. Donc là, pareil, il faut simplement saisir cette ligne de commande. Alors, sudo, d'abord, qui me permet de m'approprier des privilèges administrateurs alors que je suis connecté avec un simple utilisateur. Donc ça me permet de monter mes privilèges en mode administrateur. Ensuite, je vais choisir la commande, saisir la commande apt-get, qui va me permettre d'aller récupérer un package, puis de l'installer grâce à cette commande qui suit install, et je vais indiquer ici le package que je veux installer. Donc ici, ce qu'on va installer, c'est Apache 2. Alors je ne vais pas ici lancer cette commande, puisque sur mon serveur Linux, Apache 2 est déjà installé, donc je ne vais pas la faire, mais c'est bien cette commande-là, ici, sudo apt-get install Apache 2, qu'il faut lancer pour installer votre Apache 2 au sein de votre environnement Linux. Alors ensuite, la deuxième chose qu'il faut installer, c'est le moteur d'exécution de PHP. Alors je vais commencer encore une fois par vous montrer les commandes qu'il faut saisir quand on est au sein d'un environnement Mac. Donc quand on est au sein d'un environnement Mac, la première chose à faire, c'est d'aller éditer le fichier de configuration d'Apache 2. Donc ici, je zoome à nouveau. Et pour faire ça, il faut là aussi passer en mode administrateur grâce à la commande sudo. Je vais ensuite appeler la commande vi qui va me permettre d'appeler un éditeur. Et je vais aller indiquer le chemin vers lequel je vais pouvoir trouver donc sur un Mac, macOS 10, mon fichier de configuration d'Apache. Voilà, donc c'est vi/etc/apache2/httpd.conf. Donc là, pareil, je ne vais pas saisir la commande puisque je suis sur un serveur Linux et pas sur un Mac. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et une fois que votre fichier est ouvert de configuration, il faut aller chercher une ligne de commande qui contient une ligne dans ce fichier httpd.conf, pardon, qui contient ceci, load module php5 tiret bas module, ensuite lib exec slash apache 2 slash lib php5.so. Voilà, donc dans le fichier httpd.conf que vous serez en train de d'éditer, vous allez trouver une ligne mais qui est précédée de ce caractère dièse qui indique que la ligne est commentée. Donc pour la décommenter, il suffira de supprimer le dièse qui se trouve devant cette ligne. Donc je ne rentre pas dans le détail des commandes de VI, ça vous trouvez facilement sur internet, mais l'idée c'est simplement de supprimer le commentaire dièse que vous trouvez, le caractère de commentaire dièse que vous trouvez devant cette ligne pour activer la prise en charge de cette ligne dans le fichier de configuration d'Apache. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il faut, pour prendre en compte le chargement de ce module PHP pour Apache, il faut redémarrer. Donc toujours, il faut redémarrer notre serveur web Apache, toujours avec sudo pour passer en mode administrateur. Et ensuite, vous allez chercher Apache CTL, qui correspond au binaire qui s'exécute. Qui correspond au binaire Apache qui s'exécute sur notre serveur Linux, serveur macOS 10, et on va lui passer la commande restart pour indiquer qu'on veut redémarrer Apache. Voilà, donc vous appuyez sur Entrée pour valider cette commande, bien sûr. Et pour terminer, sous macOS 10, il faut renommer aussi le fichier de configuration de PHP. Il est nommé par défaut avec en php.ini.default. Il faut renommer, faire une copie, c'est encore mieux, de ce fichier php.ini.default et le renommer simplement, le copier en le renommant php.ini. Et ensuite en lui donnant les droits qui vont bien, de façon à ce que PHP puisse, le binaire PHP puisse y accéder. Donc pour faire ça, il faut aller dans le répertoire slash etc. Bon là je peux le faire puisque c'est un répertoire qui existe sur mon serveur. Et ensuite passer la commande sudo pour passer en mode administrateur. Ensuite cp pour faire une copie. Et on va aller donc chercher notre fichier php.ini.default pour le copier en php.ini. Voilà. Donc là, en faisant entrer, je ferai une copie de ce fichier php.ini.default en php.ini. Voilà. Donc une fois que cette commande est faite, il faut aussi appliquer les bons droits à notre nouveau fichier php.ini en faisant un sudo pour le mode administrateur. Ensuite, chmod pour changer le mode, pour appliquer un nouveau mode à notre fichier php.ini pour lui donner en particulier les droits en écriture. Voilà. Et donc en faisant cela, cette ligne de commande et en la validant, c'est ce que j'applique. J'applique donc des nouveaux droits à notre fichier php.ini. Et puis il faut également modifier le groupe d'appartenance de ce fichier php.ini. Donc chgrp va me permettre d'appliquer le groupe staff qui est utilisé par macOS 10, qui doit être utilisé par macOS 10 pour ce fichier-là. Voilà, donc ensuite j'indique le nom du fichier. Donc là, ce que je fais, je passe grâce à sudo à mon administrateur. chgrp est une commande qui va me permettre d'indiquer un nouveau groupe, le groupe staff qui suit, au fichier qui est indiqué finalement dans cette ligne php.ini. Voilà donc tout ce qu'il y a à faire pour Mac. Maintenant, pour Linux, les commandes sont un petit peu plus courtes à faire. Il suffit pour lancer l'installation de PHP de faire un sudo toujours pour accéder au mode administrateur, d'aller chercher, comme tout à l'heure pour Apache, le package de PHP. Donc voilà, apt-get espace install plus derrière le nom du paquet aller installer, donc PHP 5 pour ce qui nous concerne, mais pas seulement, il faut aller également chercher la librairie module pour Apache, la librairie PHP 2, PHP 5 pour Apache. Donc lib apache 2-mod-php 5. Voilà, donc en saisissant cette ligne, je vais installer en même temps PHP 5, donc le moteur d'exécution PHP 5, et aussi la librairie PHP 5 pour Apache 2. Voilà, donc là en validant, j'installerai ces deux composants en même temps. La dernière chose qu'il faut faire, c'est relancer le service Apache 2. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. Avec cette commande sudo service apache 2 restart. Voilà, là je peux la lancer. Je sais que le service existe. Bon, voilà, mon serveur a redémarré. Si j'ai envie en plus de vérifier que sous Linux, bien entendu ici, que mon service Apache tourne bien, je peux saisir cette commande ps espace aux qui va me permettre de lister l'ensemble des processus qui tournent sur mon serveur Linux. Donc ps espace aux, je mets ensuite un pipe parce que je vais passer une autre commande derrière qui va me permettre de filtrer grâce à cette commande grep, tout ce qui s'appelle dans les processus Apache. Voilà. Et ici, on voit bien que j'ai tous mes processus Apache qui tournent. Donc ça me confirme que mon serveur web est bien monté. Donc a priori là, au niveau des services, tout est en place. Je vais revenir à mon écran taille entière. Donc pour la partie service, c'est terminé. On va pouvoir poursuivre avec la partie qui concerne plus l'édition du code. Donc je reviens à ma présentation. Voilà. Donc évidemment là, on a ce qu'il faut pour exécuter une PHP, c'est-à-dire du PHP, c'est-à-dire qu'on a bien notre serveur Apache. On a bien notre moteur d'exécution pour PHP, PHP dans sa version 5. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on installe un outil qui va nous permettre de créer du code PHP. Alors, on peut se contenter, c'est vrai, d'installer un éditeur de code. Ça suffit largement pour créer un nouveau, du code de PHP. On verra ensuite qu'on peut utiliser des outils un peu plus complets, mais un simple éditeur de code comme celui que vous voyez là, qui s'appelle Sublime Text 2, qu'on peut récupérer à cette URL, donc sublimetext.com/2. Voilà, il est accessible à cette URL-là. Donc pour le télécharger, vous le voyez ici, il y a plein de versions qui sont disponibles pour toutes les plateformes, macOS 10, Windows en 32 ou 64 bits, et puis Linux pareil en 32 ou 64. Donc c'est un outil qui est disponible sur toutes les plateformes, ça c'est assez pratique, c'est un outil qui est gratuit et qui est très très utilisé actuellement par tous les développeurs web, et donc le PHP en fait partie. On est invité à utiliser cet outil qui est assez sympa. Il permet de faire déjà pas mal de choses. Il propose par exemple la coloration syntaxique, l'autocomplétion pour le PHP. Donc là, il y a déjà de quoi bien travailler. Alors je le télécharge pas puisque moi sur ma machine ici, il est déjà installé. Donc je vais simplement ouvrir un fichier PHP. Qu'on peut trouver par exemple pour ce qui me concerne ici. Voilà, on va aller là, et puis je vais ouvrir par exemple ceci. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est juste pour vous montrer le principe de ce petit éditeur de code. Donc vous le voyez, je vous le disais, on a de la coloration syntaxique. Je vais vous montrer que on peut avoir aussi même de l'autocomplétion, et ça, quand on commence à coder du PHP ou même dans un autre langage, c'est quand même très pratique. Par exemple, si je cherche une commande qui me permet de mettre une chaîne de texte tout en minuscules, eh bien, je me souviens qu'elle commence par str quelque chose. Eh bien, en tapant le début de ma commande PHP, ici, Sublime Text va me proposer un ensemble de fonctions PHP qui sont disponibles. Et je vois ici str to lower. Donc c'est cette commande-là qui va me permettre de mettre en minuscule une chaîne de texte. Et donc je vais ici mettre un nom de variable que j'appelle test par exemple. Voilà. Et juste avant, je vais mettre ceci. Donc on verra plus tard quand on entamera dans les modules 3 et 4 le développement de PHP, mais l'idée ici c'est simplement de vous montrer surtout qu'il y a une coloration syntaxique et de l'autocomplétion sur les fonctions natives de PHP comme str to lower. Voilà, donc c'est un outil qui est assez sympa, très simple, très léger et qui permet de faire énormément de choses. On va pouvoir par exemple aussi faire du commentaire sur des lignes multiples assez simplement avec des raccourcis clavier. Soit du commentaire de ce type-là, donc ligne par ligne, ou alors du commentaire multiligne, vous voyez c'est un petit peu différent, simplement avec des raccourcis clavier, donc avec cet outil-là on peut vraiment travailler assez vite et être malgré tout très très efficace. Voilà pour la présentation de ce petit éditeur de code qui est somme toute finalement assez sympa. Voilà, je quitte Sublime Text pour le moment. Et nous allons passer à la troisième partie de notre module, de notre premier module. Je reviens donc à ma présentation. La troisième partie va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la mise en place de notre environnement de développement, puisque ici on va s'intéresser maintenant à des outils, c'est vrai, qui vont plus loin qu'un simple éditeur, qui présentent un certain nombre d'avantages, et c'est ce qu'on appelle des IDE. Alors IDE, qu'est-ce que c'est? Un IDE, ça veut dire, si on le traduit en français, environnement de développement intégré. Donc pourquoi intégré? Puisque ces outils-là vont intégrer en leur sein un ensemble de fonctionnalités assez avancées, qui vont faciliter la vie du développeur. Donc par exemple, on va retrouver bien sûr la coloration syntaxique, l'autocomplétion du code pour le PHP, mais aussi pour d'autres langages. On va retrouver un petit peu comme dans Sublime Text le formatage automatique du code, donc l'indentation qui permet de faciliter la lecture de notre code. Mais aussi, on va trouver des fonctionnalités qui vont nous permettre de positionner notre code source sur des gestionnaires de sources, des gestionnaires de versions de sources. Ça, c'est intéressant aussi. On en parlera un petit peu plus loin dans ce cours également. Il y en a un qui est très connu, hein, qu'on appelle GitHub, mais il y en a d'autres également. On va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle de l'intégration continue. Donc, c'est la possibilité de déployer de façon progressive et continue en pré-production ou en production un code source. Et surtout, on va avoir des outils, des fonctionnalités dans ces IDE qui vont nous permettre de faire du débugage plutôt que d'utiliser des fonctions d'affichage de contenu de variables ou d'être obligé de placer dans notre code des fonctions qui vont arrêter l'exécution du code. Et qu'on doit supprimer après pour pouvoir poursuivre une exécution normale du code. Plutôt que de faire tout ça, les IDE vont nous permettre de positionner ce qu'on appelle dans notre code des points d'arrêt et d'être donc plus efficace quant au débugage. Grâce à ces points d'arrêt, on va pouvoir savoir ce qui se passe exactement dans notre code au moment où on a décidé d'arrêter l'exécution du code. Et pouvoir ensuite regarder ce que contiennent certaines variables, par exemple, mais aussi pouvoir continuer surtout l'exécution de notre code sans avoir à rajouter du code d'interruption dans notre code source. Voilà, donc ce sont des outils plus avancés, plus évolués. Il en existe pas mal, hein. Il y en a des payants, mais il y en a aussi des gratuits qui sont plutôt bien faits. Parmi les plus connus, en tout cas avec PHP, vous avez les deux qui sont proposés, que je vous propose ici. C'est Eclipse PDT, alors PDT pour PHP Development Tools. Donc c'est la version, si vous voulez, packagée d'Eclipse, mais pour les développeurs PHP. Alors vous en avez un autre également qui est assez connu, qui s'appelle NetBeans, et qui lui propose de base la gestion, la possibilité de faire du développement PHP. Alors on va les regarder un petit peu, on ne va pas les installer parce que ça prend un peu de temps, mais vous aurez tout le loisir de le faire si vous le voulez. Alors d'abord commençons par Eclipse, Eclipse PDT en tout cas, donc la version qui permet de gérer du PHP, de développer du PHP. Et si on descend un petit peu dans cette page, on voit que on a pas mal de fonctionnalités qui sont mises en avant, qui sont l'intérêt d'un IDE. Alors on retrouve ici ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est la possibilité de faire du debugging. On retrouve aussi, c'est un petit peu plus haut, la possibilité de formatage de code. Donc c'est ce qu'on voit ici dans cette partie. On a la coloration syntaxique, hein, ici. On a un petit peu plus bas la possibilité aussi de validation de code. Oups, pardon. Voilà, je vais faire ça plus propre quand même. Voilà, la possibilité de validation du code. Donc quand il y a une erreur, il va vous le signaler. Donc si je zoome un peu. Voilà, on voit par exemple ici que là où Eclipse pense qu'il y a une erreur, eh bien il va vous l'indiquer en soulignant la partie qui lui semble incorrecte. Donc ça c'est, vous avez un tas d'assistants qui sont bien utiles quand on développe et surtout quand on commence à développer avec un nouveau langage qu'on ne connaît pas forcément. Donc tout ça est assez pratique. Et vous voyez ici dans cette zone que l'avantage d'Eclipse, c'est aussi ça, c'est qu'il est disponible sur toutes les plateformes, Mac, Windows et Linux. Donc que vous travaillez sur une de ces plateformes, vous avez la possibilité d'installer cette IDE et d'utiliser pour vos développements PHP. Alors, on va parler rapidement de l'autre IDE qui s'appelle NetBeans. Voilà. Donc là, c'est la même chose, on retrouve à peu près les mêmes principes. Donc on a la confirmation ici que c'est un outil qui permet de faire du développement PHP, qu'il nous propose de la complétion sur le code, sur les fonctions natives de PHP, qu'il supporte une version 5 de PHP, qu'il permet même d'utiliser des frameworks comme Zen Framework, Symfony, donc qui sont des frameworks PHP bien sûr. Et puis on retrouve en partie inférieure ici la possibilité également de pouvoir débugger du code PHP. Donc ça c'est vraiment la force des IDE, hein, c'est cette capacité à proposer des outils de débugage. Voilà donc pour ces IDE. Maintenant, je vous propose que on vérifie que notre environnement de développement fonctionne bien. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un simple Hello World. Donc c'est quelque chose de très classique, hein. On voit pas mal d'exemples sur le net pour ça. Donc on va essayer de le faire ensemble, et on va le faire le plus simplement possible, à la fois dans les conditions d'un Mac ou d'un environnement Linux. Alors, pour rester simple, ce qu'on va faire, c'est que on va créer le fichier qui va afficher notre Hello World à l'intérieur du répertoire qui est autorisé à l'exécution de par Apache par défaut. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on aille fouiller un petit peu dans le fichier de configuration d'Apache pour voir quel est ce répertoire qui est rendu disponible à l'exécution par le serveur web Apache. Alors, on va regarder ça grâce à notre client SSH de tout à l'heure. Voilà, on le retrouve, il est toujours ici. Alors on va commencer par le faire comme si on était dans un environnement Mac. Donc si on est sur un Mac, eh bien on peut avoir accès au fichier de configuration d'Apache grâce à VI. Donc VI, c'est l'outil qui permet d'éditer, de visualiser et d'éditer un fichier quelconque, hein. Ici ça va être un fichier de configuration, mais ça peut être n'importe quel autre fichier. Donc sur Mac, il faudrait saisir VI pour appeler cet éditeur, ensuite indiquer le chemin où se trouve votre fichier de configuration d'Apache, donc c'est /etc/apache2/httpd.conf. Voilà, c'est ce fichier-là qu'il faut éditer pour trouver à l'intérieur quel est le répertoire de base, le répertoire qui est proposé, rendu disponible par Apache pour l'exécution de fichiers PHP entre autres. Donc c'est dans ce fichier-là qu'on trouverait cette information. Alors on va le faire ici pour notre environnement Linux cette fois, donc toujours /etc/apache2, donc juste là. Pas de différence, c'est simplement le nom du fichier de configuration qui change. Alors ici, on est sur une distribution Ubuntu de Linux. Donc, bon, sur d'autres distributions, le nom de fichier peut changer. Ça pourrait être comme sur Mac, httpd.conf. Donc, on va ouvrir ce fichier de configuration d'Apache. Et on va se déplacer à l'intérieur pour aller voir l'endroit dans ce fichier de configuration qui contient les chemins. Voilà, c'est ici, là où il y a les balises directory. Donc c'est là qu'on va pouvoir voir quels sont les chemins qui vont être autorisés à l'exécution par Apache de fichiers PHP entre autres. Donc on voit que par défaut ici, Apache avec cette commande là va dire par défaut tu n'as accès à rien. Donc c'est ce que veut dire cet ensemble de commandes ici. Par défaut, tu ne peux rien faire. Mais avec le code qui suit, la configuration qui suit ici, on voit que, par contre, là, je vais pouvoir avoir accès à ce répertoire /usr/share ou alors à ce répertoire /var/www. Et c'est celui-là qui va nous intéresser. Donc dans ce répertoire, comme l'indique cette configuration ici, je vais pouvoir positionner mon fichier PHP qui va afficher mon Hello World Donc c'est dans slash var slash www que je vais rajouter mon fichier dans quelques instants. Alors pour quitter un fichier édité avec VI, on fait simplement deux points Q et puis ensuite entrée. Voilà, on est sorti du fichier. Alors, je vais faire un tout petit peu de nettoyage. Voilà. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est se déplacer dans le répertoire qu'on vient de découvrir. Donc pour ce qui nous concerne, c'est dans slash, donc sous Linux, slash var slash www. Si on va dedans et qu'on fait un petit ls pour lister ce qui se trouve à l'intérieur de ce répertoire, on voit qu'on a un répertoire qui s'appelle HTML. Donc on va aller dedans, sans doute que c'est là qu'il faudra positionner notre fichier PHP, et on voit que par défaut, il y a déjà un fichier qui est présent, qui s'appelle index.html. Alors une petite précision pour ceux qui sont sur Mac, il faut le chemin, c'est pas le même, c'est pas slash var slash www slash html, mais c'est un autre chemin par défaut en tout cas. Le chemin par défaut, c'est celui-ci, je vous l'écris, slash librairie slash web server. Alors attention aux majuscules et minuscules, vous le savez sans doute, sous Linux ou sous Mac, c'est très important, le système fait la différence entre les deux. Voilà. Donc le chemin dans lequel il faudra positionner le fichier index.php qu'on va créer tout de suite sous Mac, c'est celui-ci, c'est librairie web server document. Voilà, donc là pour Linux on est dans le bon répertoire, donc pour ceux qui sont sur Mac, il faudra aller dans le répertoire qu'on vient de voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier index.php, puisque le moteur d'exécution par défaut, le moteur d'exécution de PHP, va exécuter tous les fichiers dont l'extension se termine par PHP. Donc ce qu'on va faire, c'est créer avec la commande touch, alors il faut que je passe en mode administrateur, donc je fais sudo touch, et ensuite index.php, donc le nom du fichier que je veux créer. J'appuie sur Entrée pour valider. En faisant ls, je vérifie qu'il s'est bien créé. C'est le cas. Index.php existe bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est créer à l'intérieur de ce fichier PHP une commande en PHP qui va me permettre d'afficher une chaîne de texte Hello World. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors on va le faire. On pourrait le faire si on avait accès à l'environnement de travail de Linux ou de Mac. On pourrait le faire en utilisant, par exemple, l'éditeur qu'on a vu tout à l'heure, Sublime Text, Sublime Text 2. Ça marcherait très bien. Donc, il suffirait avec Sublime Text de créer un fichier dans le bon répertoire, un fichier index.php, de l'enregistrer au bon endroit et ensuite de rajouter le code qu'on va rajouter là. Aussi dans le fichier index.php. Alors, comme on n'a pas accès, nous, dans le cadre de cette démonstration, à l'environnement Mac ou Linux, mais uniquement à une console ici d'administration via Putty, eh bien, on va le faire en utilisant le fameux éditeur VI. Alors, là, c'est pareil, il faut que je passe en administrateur, donc je saisis la commande sudo VI pour éditer le contenu du fichier index.php. Voilà. On appuie sur Entrée pour valider notre commande et on se retrouve à l'intérieur donc du fichier index.php. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on indique qu'on va écrire du code PHP et que ce qui va se trouver dans ce fichier PHP doit être interprété par le moteur PHP. Donc pour cela, il faut impérativement qu'on rajoute dans ce fichier une balise d'ouverture d'exécution de PHP. Donc pour ça, alors je vais juste ressortir du mode plein écran, voilà, pour que vous regardiez ce qui se passe un tout petit peu en bas de notre éditeur VI. Donc ici, pour l'instant, on a juste le nom du fichier qui est indiqué, mais pour pouvoir écrire à l'intérieur de mon fichier PHP, il faut que j'envoie une commande d'insertion à VI. Donc pour ça, j'appuie sur I. Et vous voyez ici en bas à gauche que je suis passé en mode d'insertion. Ce qui va me permettre d'écrire dans mon fichier index.php. Donc je rezoome à nouveau. On est bien en mode insertion. Et je vais écrire cette fameuse balise d'ouverture d'exécution PHP. Donc vous voyez que même en VI ici, avec l'éditeur VI, on a une petite coloration syntaxique. Donc là, maintenant, PHP va savoir en ouvrant ce fichier index.php qu'il doit bien exécuter du code PHP grâce à cette petite balise d'ouverture PHP. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est appeler une fonction native bien connue des développeurs PHP qui ont l'habitude, évidemment. C'est la fonction echo. Alors on aurait pu aussi utiliser print. Alors il faut savoir qu'en PHP, la fonction native print en fait est un alias de la fonction echo. Donc le plus simple pour gagner un tout petit peu en rapidité d'exécution, c'est d'utiliser directement echo. Alors bon, il y a d'autres différences entre les deux, mais disons que pour l'instant on s'arrête à cette explication-là. Donc echo va nous permettre de dire ce qui suit, ce que je vais afficher, ce que je vais indiquer ensuite va s'afficher dans ma page. Donc là ce qu'on va faire, c'est ouvrir une chaîne de texte avec une double cote, et on va écrire à l'intérieur ce qu'on veut afficher, donc hello world. Ce qu'on vient de faire là sur cette ligne s'appelle une instruction PHP ici, et toutes les instructions PHP doivent se terminer par un point virgule, comme dans beaucoup d'autres langages. Ensuite, il faut qu'on indique que l'exécution PHP se termine après cette première instruction. Ce sera la seule dans notre fichier pour l'instant. Et pour cela, on doit fermer la balise d'ouverture PHP comme ceci. Voilà, notre fichier index PHP, il est terminé. Je vais sortir du plein écran. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'indique ici maintenant que je veux enregistrer ce que je viens d'écrire dans mon fichier index.php. Alors pour ça, j'appuie sur échappe. Ensuite, j'appuie sur deux points. Donc il faut à nouveau regarder ce qui se passe en bas à gauche de notre console Putty. Et je vais indiquer que je veux écrire dans le fichier ce que je viens d'y ajouter avec la mention, la touche W. Et ensuite, je veux dire que je veux quitter en appuyant sur la touche Q mon éditeur VI. Donc là je fais d'une pierre deux coups en quelque sorte, je vais écrire et en même temps quitter. J'appuie sur Entrée pour valider. Donc c'est bien en bas à gauche ici que ça se passe. Hein. Voilà, je vous l'encadre au cas où. J'appuie sur Entrée donc pour valider. Là j'ai à la fois donc écrit et quitté, écrit dans mon fichier et quitté VI. Donc si je voulais vérifier le contenu de mon fichier index.php, parce que comme je débute tout ça, bon, on n'est pas toujours sûr. Donc pour vérifier, on peut faire un cat index.php. Voilà. Et là, ça affiche simplement, cette commande cat affiche simplement le contenu de mon fichier index.php. Et on voit qu'il y a tout ce qu'il faut, la balise d'ouverture PHP, l'instruction d'affichage Hello World et la balise de fermeture PHP. Donc a priori, là, tout est en place pour que mon Hello World s'affiche correctement dans le navigateur que je vais ouvrir tout à l'heure. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est que si on fait un ls, bon, je vais peut-être trop zoomer à nouveau, si on fait un ls ici, donc là, c'est la commande que je viens de saisir. Eh bien, je visualise le contenu du répertoire dans lequel je suis. Le répertoire, donc slash var, slash www, slash html. Et ici, je vois que j'ai deux fichiers. J'ai index.html et j'ai index.php. Alors, il se trouve que le serveur web Apache va donner une priorité sur la lecture, sur l'exécution des fichiers qui se trouvent dans ce répertoire. Et il va commencer par les fichiers HTML, index.html d'abord, et ensuite passer sur les fichiers PHP, index.php ensuite. Alors ça va être gênant parce que ça va nous empêcher de visualiser notre page index.php puisque la priorité va être donnée à index.html. Donc ce qu'on va faire pour éviter ce problème-là, c'est qu'on va simplement renommer le fichier index.html en indiquant par exemple devant un simple underscore, ce qui fait que Apache ne va plus trouver le fichier index.html sur lequel il donne la priorité, et il va donc passer à l'exécution de notre fichier index.php. Donc il faut savoir que tous les fichiers qui s'appellent index.quelque chose sont des fichiers qui vont être recherchés par le serveur web Apache pour être exécutés. Alors, on va renommer ce fichier index.html. Donc, on passe toujours en administrateur pour avoir les droits de modifier le nom du fichier index.html. Je donne d'abord le nom du fichier que je veux renommer et ensuite la destination vers laquelle je veux aller. Donc, tiret bas ou underscore index.html. J'appuie sur Entrée pour valider. Alors, je fais une erreur, j'ai oublié la commande de renommage. Donc, la commande de renommage, c'est MV, comme move pour déplacer. Donc, on change le nom de notre fichier ainsi. Voilà. Donc, si je veux vérifier, eh bien, je vois maintenant, en faisant ls, pour lister le contenu de mon répertoire, que j'ai bien renommé mon fichier index.html en -bas index.html. Donc maintenant, on va essayer de voir si notre fichier index.php s'exécute correctement. Donc pour ça, on va lancer notre navigateur. Alors moi, dans le cadre de cette démonstration, j'ai dû me connecter à un serveur distant. Mais vous, pour tester l'affichage de votre nouvelle page PHP, index.php, eh bien, il suffira que vous alliez ouvrir votre navigateur préféré et que vous tapiez simplement http 2. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu, slash slash localhost. Donc c'est ça qui va vous permettre de faire appel à l'exécution locale de votre serveur web. Et par défaut, eh bien Apache, comme je vous le disais, va aller chercher le fichier index.php que nous venons de créer et afficher notre fameux Hello World. Voilà, a priori tout fonctionne, le PHP est correctement exécuté, notre serveur web répond parfaitement. On a réussi à créer notre fichier index.php qui contient cette mention Hello World. On peut donc considérer que notre environnement de développement est prêt. Alors on s'est contenté du minimum, mais c'est l'objectif de ce cours. L'idée c'est de rester le plus simple possible. C'est ce qu'on a essayé de faire là. Et donc notre environnement de développement est plutôt pas mal. Le prochain module, le module numéro 2, va faire à peu près la même chose que ce module-ci, mais au sein de l'environnement Windows cette fois-ci. Donc nous verrons ensemble comment installer les outils qui vont nous permettre de développer au sein d'un environnement Windows développé en PHP. Voilà, c'est terminé pour ce premier module. Alors bien entendu, si vous travaillez sous Mac ou sous Linux, vous pouvez directement passer au module numéro 3 qui va vous permettre d'apprendre les bases fondamentales du développement avec PHP. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce cours.